ça, c'est le discours analytique travesti à son étage le plus bas. Puisque il faut quand même trouver des trucs, ça s'appelle technique. Et puis ensuite, vous avez le cognitivisme, qui est le résultat des recherches des gens qui font des choses très intéressantes avec des ordinateurs et des robots. Vous savez, ils font une petite bête qui ressemble à un scarabée, et puis il va se cogner contre les murs, et on regarde si l'ordinateur qu'il dirige va, en prenant en compte les coups, les chocs avec des suceurs, ça va transformer le logiciel de l'ordinateur, ce qui fait que l'ordinateur va devenir intelligent. C'est ce qu'essayent de faire les mecs de Microsoft et de Apple dans les ordinateurs. Ce qui fait que moi je débranche, ils appellent ça personnalisé, mais moi je ne sais pas si c'est personnalisé, mais je débranche tous ces trucs pour essayer de transformer mon ordinateur au crayon. Parce que comme ça au moins je peux m'en servir. Parce que sinon il se met à faire des tas de trucs sans me demander mon avis. Moi, j'ai une feuille de style, comme on dit aujourd'hui, très. Mais moi aussi, je peux être sans lecture. J'aime bien quand même qu'ils suivent mes consignes. Sinon, ça me demande des heures de me préparer à ça. Alors, je préfère tout débrancher. Bon, toujours est-il qu'il y a de quoi plaisanter, parce que pour étudier le langage, pour étudier qu'est-ce que c'est que le langage, la parole et l'écriture, la lecture. C'est une plaisanterie de vouloir qu'on mette ça en concurrence avec la neurologie et la théorie de l'apprentissage par les machines. Après Skinner, après Pavlov, Skinner, les rats dans le labyrinthe, vous savez, qui appuyaient sur une pédale. Bon, c'est très intéressant, le cognitivisme. Si vous voulez envoyer des mecs sur la Lune, quand ils ont les pieds en l'air, ils doivent appuyer à l'heure fixe sur un bouton, c'est vachement bien. Moi, je conseille de faire des trainings de cognitivisme, même pour les équipes dans les avions, là, quand ils vous servent des plateaux repas, comme chez McDonald's, vous savez. Il faut qu'ils fassent ça dans un espace restreint, dans une période un peu dangereuse, avec des angoissés autour d'eux. Je trouve que c'est très bien qu'ils suivent un timing vachement précis pour faire ce qu'ils font. Mais moi, je ne veux pas vivre dans ma famille, dans mon quartier, dans mon travail, dans la vie de mon pays, comme si j'étais membre d'une équipe de stewards, bon, ou un cosmonaute. C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire l'idée de l'efficacité et l'idéalisme, parce que ça rend con, vous voyez. Il y a des trucs très bien qui peuvent avoir une justification, un intérêt dans une circonstance bien précise, dans quelques circonstances qu'ils réclament. C'est l'idée des militaires, de toute façon, le management, c'est l'idée que les militaires, ils disent pas oui ou non, ils disent positif, négatif, non, non. Donc c'est l'idée des militaires. On n'a même pas attendu l'époque moderne et la théorie de la communication de Davidson. Ça, c'est une escroquerie de se référer à la théorie de la communication de Davidson pour vendre sa calotte. Pour vendre le management aussi bien que le téléphone cellulaire portable, vous voyez, théorie de la communication. Alors, c'est la même chose que le genre. Et aujourd'hui, ça s'appelle plus sexuation, ça s'appelle genre. Vous avez vu ça? Parler du genre, moi, ça me fait penser à des gens qui parlent de diététique quand il s'agit de gastronomie. Le genre, c'est pas sexe. Hein. Sexe, c'est un peu plus compliqué. C'est ce que genre, hein, vous avez quoi? Vous avez le genre masculin et le genre féminin. Et puis il y a mauvais genre. Mais il y en a qui ont bon genre. Bon. Eh bien écoutez. Et puis surtout en anglais, ça se dit comment genre? Ça se dit.
Gender,
n'est-ce pas? On n'est pas loin du le gender.
Gender studies.
Le genre, on n'est pas loin du le genre. Et comme Lacan, il a laissé derrière lui beaucoup de genres. C'est au moins deux, il y a Pierre Legendre, il y a un autre gendre qui traîne là, puis maintenant il y a l'homme de farine qui se prend pour le gendre du prophète, Ali c'est le gendre des prophètes. Donc moi je pense que l'intérêt des jeunes gens pour le genre, ça vient de la calamité qu'est le discours des Lacaniens après Lacan. Il leur a balancé des gendres et ça fait du genre. Voilà, ils ont baissé tout. Le gendre, lui, Pierre Legendre, le juriste, il n'est pas ça, hein, il est meilleur. Il est meilleur que les deux autres. Bon, enfin. Alors, ça, c'est moi qui lis. Vous voyez, lire, c'est ça, c'est déconner avec les mots. Et c'est pas bien, parce que le psychotique, il ne veut plus qu'on fasse ça. On n'a plus le droit de confondre genre et le genre. Bon, c'est une question d'oreille. Alors, justement, à propos de l'oreille, moi, je veux vous dire que la musique de Messiaen, moi, j'aime certaines choses, pas tout. Il y a même des choses de Boulez que j'aime beaucoup, un élève de Messiaen. Mais moi, je tiens que Messiaen, il a écrit Les oiseaux, pas du tout, parce qu'il croyait que les oiseaux, c'était des musiciens, et que la nature joue de la musique. Moi, je pense qu'il a été dépassé par son désir de la manière suivante, c'est qu'il a fait des œuvres de piano avec les oiseaux, pour qu'il a fait jouer par sa femme, parce qu'elle est concertiste, elle joue du piano. Mais le truc, il ne l'a pas capté, parce que Lacan, ça ne l'intéresse pas beaucoup, il a raison, mais ça ne lui aurait pas rapporté grand-chose. Il ne s'est pas rendu compte que sa femme, elle s'appelait Loriot. Vous savez, hein, vous la connaissez, elle est morte maintenant. C'était la femme de Yvonne Loriot. C'était la femme de Messiaen. C'est pour ça, à mon avis, qu'il a écrit Les oiseaux. C'est plus probable qu'il ait cru que, bêtement, que les oiseaux faisaient de la musique. Bon. Alors, tout ça pour vous dire que ces histoires de logique, je ne sais pas par quel bout vous le faire prendre, mais cette aliénation, c'est un nouveau « ou ». Donc, il y a un « ou » qui s'appelle le « ou » exclusif. Vous connaissez les petits diagrammes de Nerven pour les OU ? Vous avez OU comme ça, voilà. OU, vous avez ça. Ça c'est P et ça c'est Q. Ben voilà, P ou Q, c'est quand vous ne considérez pas toute cette zone extérieure. Vous voyez ? Alors, je ne mets pas le cadre, parce que j'ai parlé déjà de Morgan de là. L'autre invention de Morgan, c'est l'univers des discours. C'est crétin, parce que sur la sphère, il n'y a pas de trou. Bon, si vous mettez un cadre autour, là, qu'on appelle le référent, eh ben c'est que vous n'avez pas bien compris comment il s'agit, de quoi il s'agit. Et là, vous avez quoi ? Ben ce cadre, c'est le bord d'un trou dans une sphère. Hein ? Je suis en train de vous dire que sur une sphère, si vous mettez deux cercles comme ça, cercle comme ça, vous avez un autre cercle qui va passer par là, qui va rencontrer l'autre de l'autre côté, qui vient là. Bon, ben, ces deux cercles, c'est comme ces deux cercles là. Vous n'avez qu'à tout ramener sur la face visible de la Lune, ce point de contact d'intersection, il est caché dans la face cachée de la Lune. Ramenez tout sur le devant, sur la sphère, vous pouvez très bien ramener tout ça et dessiner ça comme ça. Ça, c'est la même chose que ça. Hein, il suffit que ce point le faire glisser par là, et puis les pointillés, ils vont venir devant, voilà, vous ramenez tout devant. Et ça, c'est une sphère. Ben, vous voyez bien que les quatre zones qui sont là, elles sont strictement équivalentes. Parce que sur ce dessin-là, avec la zone qui est là, l'autre croissant là, qui est là, l'autre partie de pastèque qui est là, puis l'autre partie qui est là, les quatre zones sur la sphère sont identiques. Faire voir ça encore comment là, je vous fais voir ça comme ça, regardez, je vous mets ça comme si vous étiez sur la Terre avec les méridiens et les parallèles. Là, je mets un équateur et puis le méridien de Greenwich. Et vous voyez bien que la sphère elle est découpée en quatre cadrans qui sont les quatre égaux, quatre identiques. Vous avez une objection ou vous, il y a une difficulté à voir ça ou je me fatigue pour rien? Non, je voudrais votre avis. Est-ce que c'est intelligible ce que je suis en train de dire? Ces quatre zones. Alors, vous voyez, Lacan, il est fondé de dire que le trou réel, celui dans lequel on se trouve, on l'oublie. Parce que justement, c'est celui qui est autour qui fait un problème et qui nous oblige à mettre ce cadre. Mais ce cadre, il vient d'où? Regardez, si je fais un trou dans la sphère. Si je fais un trou dans la sphère, je vais agrandir ce trou, je d'agrandir ce groupe ou qu'il soit comme ça. Ah, puis voilà, il est là comme ça, mon trou. Et puis voilà, j'ai ici, j'ai mon petit diagramme de Lerven qui est toujours là. Bon. Vous voyez bien que si vous mettez la sphère à plat, si cette partie-là doit être passée en dessous, vous voyez bien que c'est un mouchoir. Et puis vous allez avoir un truc comme ça. Voilà. Et le bord du trou, c'est le bord du cadre. C'est le bord du trou qui est là. Donc les quatre zones sont les mêmes, mais ça ne peut pas se mettre à plat. Il faut imaginer que le tableau, c'est une grande sphère qui va se fermer à l'infini, je ne sais pas où. Vous voyez, mon pauvre malheureux tableau, là, c'est une fenêtre, dans une petite fenêtre découpée dans une sphère. Et ce n'est pas le découpage qui est amusant avec l'histoire du cadre, là. C'est le bord du trou fait dans la sphère. Pour pouvoir la repasser, la mettre à plat avec un fer à repasser. Oui.
Oui, là où il y a eu plus de mal dans votre papier, c'est la transitivité des concentriques.
Ah, bah, attendez, là vous faites un saut, là, vous voulez me faire avancer plus vite.
Bah, un peu.
Bon, d'accord. Alors j'arrête sur le trou de la sphère, mais je vous signale quand même que ce trou qui est autour, il a toujours affaire avec le trauma. D'où vient la différence entre. Vous avez lu ça dans les écrits de Lacan, cet exposé magnifique. Pour la prochaine fois, moi je vous invite à lire l'exposé de Hippolyte. Hein, l'exposé d'Hippolyte, là. Vous vous souvenez de quoi il parle dans son exposé d'Hippolyte? C'est génial là, quand il parle de l'Aufeboom. C'est ça qui va le conduire à la répétition. Il lit le texte de Freud sur la négation en nous disant que c'est génial, génial, génial. Et je pense que c'est assez génial. Bon, mais lui, vous voyez, il sait lire Hippolyte, il y met son désir dans le texte de Freud. Donc il trouve des trucs incroyables qui ne sont sans doute pas dans le texte de Freud, mais c'est pas grave, c'est le désir. Voilà, lire, c'est vous voyez, Freud, il a eu cette formule de dire pour lire un rêve, il faut trouver le désir du rêve. Le désir, ça va être l'invariant du rêve. Le rêve est la réalisation d'un désir. C'est là que on va venir l'emmerder comme Popper qui veut dire, mais il y a des cauchemars. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ben, le désir, c'est pas le plaisir. Le rêve, c'est la réalisation d'un désir qui se réalise et qui fait plaisir, enfin, disons qui produit une certaine résolution. C'est dominé par le principe du plaisir. Il n'y a pas trop de tension, ça diminue les tensions de réaliser son désir en rêve. Alors, il y a des rêves traumatiques. Donc, Popper, il dit, il aurait dû falsifier son ouvrage, sa science des rêves. Ouais, et ben, il n'a pas lu Popper, il n'a pas lu ça. Il n'a pas lu les essais psychanalytiques dans lesquels il y a Au-delà du principe du plaisir. Et Freud, justement, dans Au-delà du principe du plaisir, en 21, ou en 20, en 20, 1920, il va essayer de falsifier sa science des rêves. Donc je ne vous parle pas de Popper, c'est une malhonnêteté incroyable, mais il y a quand même des gens qui préfèrent le Popper, qui a écrit contre Freud, c'est le post-scriptum à son grand ouvrage sur la logique de la recherche scientifique, de la science expérimentale, Popper. Hein. C'est une escroquerie, mais il aurait pu lire Freud aussi en 1920, parce qu'il a écrit après. Bon, donc Freud, il a falsifié son œuvre, mais alors Hippolyte, c'est ça qui l'intéresse, c'est que Hippolyte, il trouve génial, parce qu'il lit, voyez-vous, donc il met son désir. Donc on peut prolonger l'idée de Freud. Lire, c'est retrouver son désir dans le désir de l'autre. Vous voyez, c'est le rond vert, le rond qui est le manque dans l'autre, le trou dans l'autre, le disque vert, à cette étape-là, il va trouver un bout de lui-même dans le manque de l'autre. Et son manque devient un élément qui fait défaut à l'autre. Vous voyez ? C'est l'histoire de Lacan qui va nous raconter des histoires de placenta. Il va faire remonter sa part au trauma. Distinguez bien le trauma, cette histoire de mythe de la lamelle. Le trauma, c'est le malentendu des parents. Ça fait trou, un trou réel dans lequel le sujet se trouve. Alors que le placenta, c'est une partie de moi-même que j'ai perdue et que je retrouve dans le désir de l'autre, dans son manque. Dans le manque de l'autre, je vais retrouver une partie de moi. Ça, c'est le placenta, ça, c'est la lamelle. Il faut les distinguer. Quel est le plus important pour la causalité du sujet? Voilà le genre de question que nous allons traiter. Donc, il y a le trauma, et Hippolyte, lui, il s'émerveille du texte de Freud, parce qu'il dit, Freud, il est en train de réfléchir comme, qu'est-ce que c'est que la pensée? Qu'est-ce que c'est que penser? Bon, moi, vous le savez, vous le savez bien que dans Freud, hein, dans son texte sur la négation, vous l'avez lu 1000 fois, vous avez, première étape, Freud va expliquer grâce à la négation qui est un progrès qu'on peut faire apparaître dans le conscient ce qui est inconscient, ce qui est rejeté comme faux, on peut le faire apparaître comme vrai. On ne comprend rien au texte de Freud si on n'a pas l'idée de Frege, que je vous ai dit tout à l'heure, que le vrai nécessaire, le faux nécessaire, c'est pas comme le vrai et le faux banal. Hein, la neige est blanche. Il faut bien que vous rentriez ça dans votre programme. Un jour, vous pourrez lire, par exemple, un truc que j'ai fait qui s'appelle l'amour du tout aujourd'hui, ça se trouve sur ma page internet. J'ai fait tout un truc là-dessus à propos de Tarski, à propos de la vérité chez Tarski, pour expliquer ce que Frege essaie d'expliquer. Vous voyez, Frege, c'est quelqu'un qui ira à la fin de sa vie, pour faire comprendre ce que c'est que l'énonciation, pour faire comprendre ce que c'est que la vérité logique, la vérité qui se négocie pas. C'est pas une raison de devenir psychotique. Hein. Justement, il faut reconnaître la fonction dogmatique de la vérité logique, du faux logique, et qu'il y a une aliénation entre les deux, qui n'est pas le paradoxe, qui n'est pas un paradoxe, qui est une aliénation, décrite par Lacan avec son opérateur. Et vous voyez que c'est différent de la vérité constative. Et ça, c'est Frege. Et là, Freud, qu'est-ce qu'il dit? Freud, qu'est-ce qu'il dit dans la négation? Alors, je vais effacer le tableau de ces sphères qui ne nous ont pas enthousiasmés. Je n'ai pas entendu de cri comme quand c'est Einstein. Alors, arrête. Bon, regardez. Freud, qu'est-ce qu'il dit dans son texte? La négation, hein, ça permet. On doit dire des choses vraies. Donc les choses fausses, on ne les dit pas. Disons que ce qui est faux, donc, c'est refoulé. Et qu'est-ce que c'est que ce vrai? Qu'est-ce que c'est que ce faux? Vous n'y comprenez rien si vous ne voyez pas que ça, c'est la vérité de la parole. C'est la vérité qui nécessite qu'on se réfère au grand autre, dira Lacan. Mais lui, il le dit à l'envers, Lacan, parce qu'il dit, il va introduire le grand autre parce que cette vérité, elle est différente de la vérité constative. On s'en fout que ce truc soit jaune. Il y a des choses qui sont vraies. Et les lois logiques, elles sont vraies. Analytiquement vraies. Donc Freud, il dit, la négation, c'est un progrès, puisque grâce à la négation, je peux faire apparaître le faux dans le discours vigile. Je peux dire des choses fausses, mais à condition de mettre un indicateur qui s'appelle la négation. Et c'est pour ça qu'il dit, dans le discours du patient, la négation, c'est le mab in Germany, c'est le label, c'est la marque de ceci est refoulé. Puisque le refoulé, c'est ce qu'on ne peut pas dire. Donc Freud, je vous fais remarquer hein, que Freud, dès qu'il entend parler par Brentano, assez tardivement, dans les années 20, que les logiciens comme Frege et Peirce ont inventé un calcul de la coordination, c'est-à-dire dans lequel il y a un opérateur qui s'appelle la négation, et puis ensuite il apprend que Frege a appelé le P de X, il a appelé sa fonction propositionnelle, c'est français, là, et ensuite Peirce, il a inventé le quantificateur existentiel. Freud, tout de suite, il se dit, si les logiciens ont inventé des nouveaux caractères d'écriture, c'est quand même un bel hommage à Frege, qui, le pauvre vieux, lui, n'a pas trouvé ce qu'il voulait dans cet ordre-là. Je m'en sers tout de suite pour expliquer un truc sur l'inconscient. Je m'en sers tout de suite pour expliquer le processus primaire. Hein? Principe du plaisir. Et puis l'existentiel, principe de réalité. Bon. Mais vous voyez bien qu'on est obligé de s'intéresser à ce que c'est que l'écriture si on est freudien. Quand Freud il trouve trois caractères d'écriture nouveaux, étudiés et inventés par des logiciens qui font de la logique mathématique, il le prend et immédiatement il écrit un article. Bon. Donc, l'aliénation et la séparation, c'est deux opérateurs qui prolongent la négation de Freud dans le calcul de la coordination. Okay.
level que je vous propose d'étudier à partir de là, c'est ce qu'on va construire. Ça s'appelle séparation. Et ça, il faut le construire. Et, bon, j'ai construit la formule, mais ce n'est pas très intéressant la formule si on ne sait pas la lire, si on ne sait pas quoi en faire. Donc on va voir. Ça va devenir beaucoup plus intéressant, vous allez voir. Parce que non seulement on va avoir la formule, mais on va pouvoir s'en servir. Et pour s'en servir, il faut se poser la question. Quel rapport y a-t-il entre cette écriture, les explications que donne Freud, et ce que les imbéciles appellent clinique, c'est-à-dire la phénoménologie? Parce que la clinique, ce n'est pas la phénoménologie. La clinique, c'est justement l'alliance de l'écriture, et c'est d'abord fonctionnel. C'est des trucs qu'on ne peut pas déduire des phénomènes. Il faut se placer du côté du langage. On ne peut pas le trouver du côté de l'observation biologique, expérimentale, empirique. C'est pas empirique. Et c'est pas non plus mécanique, ni électronique, ni tout ça. La clinique, c'est quelque chose qui nécessite la charte de la structure. C'est la même chose que le phonème. C'est même pour ça qu'il y a une grande incompréhension de ce qu'est le mot « trib » chez Freud. On a mal traduit par « pulsion ». Parce que le « trib » chez Freud, c'est le phonème. C'est-à-dire, ce que dit Trubetskoy, c'est que c'est nécessairement fonctionnel. On ne peut pas définir le phonème par une analyse du phénomène de la parole en acte, en exercice, du fait de parler ou du fait d'écrire. Le phonème, alors, lisez Trubetskoy, principe de phonologie, ça s'appelle. Dès je ne sais pas, moi, c'est peut-être page 10 ou page 40, enfin, c'est assez près du début. Il passe en revue toutes les théories linguistiques de son époque pour mettre à l'épreuve la définition du phonème. Et il montre qu'aucune définition ne convient. Donc il dit, voilà, ce qu'on appelle le structuralisme, c'est quoi? C'est Baudouin de Courtenay, ça va donner Trubetskoy, c'est il y a des choses qui ne peuvent être que fonctionnelles. La définition phénoménologique, l'observation, ne vous plaît. Donc même Popper a raison, là. Il le dit pour toute la science expérimentale, que ça ne donnera jamais une loi scientifique, l'observation. Bon, mais lui, il va nous enliser tout ça dans un pragmatisme, un empirisme. Bon, c'est complètement idéologique, parce que sinon, Popper, c'est très très bien. Il a raison, il n'y a pas d'induction en science. On peut répéter 1000 fois la même expérience, ce sera jamais la preuve que c'est universel. Il a raison. Oui.
Oui, mais il n'a rien à dire sur les maths.
Voilà, mais il dit rien, ni sur la logique, ni sur les maths.
Voilà, ni sur la physique.
Non, mais il les considère comme elles sont. Et sur le désir du savant, non plus. Quand il cite Einstein, dans le début de son œuvre, il dit qu'il y a Einstein qui dit que lui, il ne peut s'intéresser à quelque chose qu'avec passion. Il dit, Popper, il dit, on ne va pas s'occuper de ça, on va le laisser, ça sera de la psychologie du savant. Ah. Les psys qui disent que Cantor est psychotique, ils font la même chose que Popper. Ils pensent qu'ils vont pouvoir traiter de la question en termes psychologiques et en termes ségrégatifs de ce qui s'appelle le désir. Hein? Alors que Lacan lui fait une remarque. Hein? Il dit Oppenheimer, après avoir fait la bombe, c'est le premier à avoir écrit un livre où est en question le désir de la science et du scientifique. Ça s'appelle La science et le bon sens. Occasion, on disait ça. C'est la description du fantasme, la science comme un fantasme. Hein? Lacan, il dit que c'est là, c'est s'intéresser au désir de la science, c'est-à-dire que Oppenheimer, il s'aperçoit que c'est nécessairement incomplet. C'est après Heisenberg et Oppenheimer, c'est comme Gödel, c'est incomplet, et aujourd'hui, c'est comme Indica, c'est incomplet, et aujourd'hui, on rentre dans un monde dans un monde incomplet. Disons, où les théories scientifiques se révèlent incomplètes. Bon. Alors, est-ce que c'est une raison de devenir fasciste? Non. De devenir réactionnaire? Non. De retourner voir les curés, ceux qui veulent, moi j'ai rien contre la religion, hein, c'est très bien ceux qui veulent un catéchisme. Mais qu'on vienne pas se moquer de nous en nous disant que c'est sérieux. Ce qui est sérieux, c'est qu'il y a un refus, apparemment, je dirais, il y a un pacte qui conduit à refuser l'incomplétude, le fait que la science ne soit pas tout. Ça montre simplement que la science, elle avait encore un aspect parfaitement religieux, enfin théologique, et idéal. Bon. Et la science, elle se révèle de plus en plus nous offrir des théories incomplètes. Le seul système complet que je connaisse, c'est justement ce calcul de la coordination logique. Et c'est une algèbre de Boole, c'est un système d'écriture du point de vue de Frege. Et si j'inclus un opérateur métalinguistique qui dit ceci est vrai, qui serait le même que la négation, mais au lieu de la négation, c'est un indicateur qui dit ça, ce que je vais vous dire est faux. Donc il faut ajouter un opérateur qui est nécessairement métalinguistique, comme l'explique Tarski, sinon ça fait un paradoxe, ça le rend incomplet le système d'écriture. Donc il faut le mettre dans le métalangage, donc il faut se placer dans le métalangage pour pouvoir voir ce système d'écriture complet qui s'appelle calcul de la coordination ou des énoncés ou des propositions ou des concepts. Ce calcul, si on le regarde de l'extérieur, si on se regarde d'une manière extrinsèque, si on est capable de narcissisme, de sortir de l'image et rentrer dans l'image, de s'apercevoir qu'on a un corps et qu'on a une image narcissique et que lire, c'est faire ce mouvement. Vous voyez, il y a quelque chose là du narcissisme là-dedans, hein, du miroir. Il va falloir, on va voir ça. Tous ces petits schémas, ces quatre petits schémas que j'ai mis en haut, je vais vous les mettre sur le schéma R et L et I de Lacan. C'est une nouvelle lecture, parce que j'ai montré que les schémas, on peut les lire comme des pliages du schéma de la lettre 52. C'est acquis pour certains, ça fait 30 ans que je fais ça. Et là, maintenant, je viens de passer la deuxième étape. J'ai déconné pendant tout ce temps-là, je perds mon temps. J'espérais que quelqu'un le ferait à ma place. Parce que j'aimerais bien avoir un copain, ça, pour ne pas m'oublier tout seul. Ben non, c'est moi qui l'ai fait. Je suis désolé. Je me suis aperçu que la séparation, ce n'était pas l'intersection logique, c'est une façon d'intervenir dans l'intersection logique. Ça modifie ce qui est le bleu ici. C'est ce que dit Lacan dans son texte. Hein? La fonction logique qui est à modifier par la séparation, c'est l'intersection. Et là, l'intersection, elle occupe toute la place. Là, il y a une petite intersection, mais les trous sont en dehors. Et quand les trous sont dedans, là, on voit apparaître le sujet barré et le A barré. Le sujet barré, c'est la partie verte. Sujet barré, voyez-vous, c'est tout le disque S. Hein, mais sans A, donc c'est plus A, plus la partie bleue. Il faut aussi retirer la partie bleue. Donc S sans A, ça c'est vert. Hein, regardez, S sans le A, vous voyez, ce qui est vert ici, c'est S plus A. Et ce qui est rouge ici, c'est grand A plus petit A prime. Alors c'est très marrant, hein, je vous l'ai dit ça la semaine dernière, c'est le premier truc à capter qui est vraiment difficile pour que ça devienne dialectique, cette affaire, c'est que quand on ajoute, c'est comme si on retranchait. Quand on retranche, c'est comme si on ajoutait. Ajouter et retrancher, ça s'écrit toujours avec une loi d'addition dans l'algèbre de Boole. Mais c'est une algèbre de Boole à condition, vous voyez, que ce calcul, vous le considériez comme un calcul objet et que vous le placiez dans le métalangage, parce que dans ce calcul, il n'y a pas le signe égal que j'ai utilisé là, vous voyez. Là, c'est écrit, ça c'est écrit à la manière de Frege. Et ensuite, à la manière de Boole, on va l'écrire comme ça. Comment on va réussir à écrire ça comme ça? Ben parce qu'on va utiliser ce schéma qui est un diagramme. Ça s'appelle un diagramme. Et on va penser le problème des schémas de Lacan avec ce diagramme. C'est un diagramme synchronique. Vous regardez, c'est le rêve des linguistes. Tenez, voilà. C'est un objet vachement bien si les linguistes se donnaient la peine de lire Lacan et de réfléchir à ça. Ils arrivent à un truc qu'ils voudraient faire pour la langue et qu'ils n'arrivent pas à faire pour une langue, pour la langue en général. Hein? Donc, c'est vachement bien que Lacan il ait construit d'une manière paradigmatique un objet, n'est-ce pas, une occasion où il fait ce que les linguistes voudraient faire entre diachronie et synchronie. C'est-à-dire, là j'ai la diachronie, vous voyez. Quatre étapes dans le temps, les disques ils sont côte à côte et puis ils s'approchent, ils ont une intersection, ils superposent plus et puis ils finissent par se superposer complètement. Ça c'est diachronique. Vous voyez ce truc-là. Il y a quatre temps, j'ai obtenu quatre temps. Hein. Et bien, de ces quatre temps, alpha, bêta, delta et phi. Alors pourquoi? Parce que j'ai sauté un temps ici que j'avais appelé gamma et j'ai sauté un temps ici que j'ai appelé epsilon. Parce que l'on peut aller moins vite, on peut faire apparaître comment, quand les trous commencent à entrer dans le bleu. Bon. Je ne les ai pas mis parce qu'ils ne me servent pas pour définir la séparation. Mais ils vont nous servir quand on va regarder ça de plus près sur les schémas R et I, justement pour définir la psychose, à la manière de Freud dans le Bachelet, c'est-à-dire quand on va regarder le symptôme de Lacan, là, le symptôme Freud, c'est-à-dire la version ancienne de la théorie de la psychose pour Lacan. C'est celle qui change avec le symptôme, son séminaire Le Symptôme. Il va définir de nouveau le symptôme Lacan psychotique, le symptôme de la psychose pour Lacan va être défini grâce au symptôme Freud qui était l'ancienne façon d'écrire l'ancien système de production. Donc, là, on va revisiter ce que j'ai déjà montré avec le pliage des schémas, et puis j'en ai montré des morceaux assez conséquents dans Etoff et dans Neuf. Hein, la manière de passer du schéma de Freud jusqu'au schéma Hitchreder. On va refaire le même chemin, mais on va lire ça encore autrement. C'est diabolique. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ouais, ce qui m'apparaît en tous les cas, c'est que c'est normal que la formule de gauche modifie le dessin, dans la mesure où le dessin est complètement symétrique entre S et A,
oui.
Alors que P et Q, il n'y a aucune symétrie.
Attendez.
On introduit une dissymétrie dans
P. Non, mais ça, j'ai pas écrit la séparation. Ça, c'est l'aliénation.
Mais déjà.
Ça ne concerne pas ça. Non, l'aliénation, ça concerne le choix forcé. Écoutez, ne mélangez pas les choses. Séparez bien. Aliénation et séparation. Oui, oui.